Laudetur Jesus Christus.
Les pays de l'OTAN mettent les bouchées doubles à l'approche de leur sommet dans 3 semaines où est attendu Donald Trump. Le consensus semble s'installer sur une augmentation des dépenses militaires à 5% du PIB. Direction Bruxelles au début de ce journal. L'aide humanitaire reprend au compte-goutte à Gaza, assurée par la très contestée Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Israël et les États-Unis. Une privatisation de l'aide qui choque de nombreuses ONG comme Oxfam. Dans ce journal également, les ambitions du Brésil pour les océans à quelques jours de la conférence de l'ONU organisée sur ce thème à Nice, en présence notamment du président Lula. Nous irons aussi au Burundi où avaient lieu hier les élections législatives. Et puis l'invité de notre dossier ce matin, Monseigneur Vincenzo Paglia, qui vient d'achever son mandat à la tête de l'Académie pontificale pour la vie. Ces mots résonnent alors que certains pays veulent légiférer sur l'aide au droit à mourir.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour, le sommet des pays de l'OTAN approche, il aura lieu les 24 et 25 juin à La Haye, aux Pays-Bas. Un sommet crucial alors que les pays membres de l'Alliance Atlantique sont sous pression américaine pour augmenter leur budget de défense. Et hier, les 32 ministres de la Défense de l'OTAN se sont séparés à Bruxelles sur un quasi-accord qui semble rassurer l'ensemble des alliés. Une augmentation spectaculaire des dépenses militaires à 5% du PIB qui paraît désormais devoir être acquise lors du prochain sommet. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
5%, c'est colossal, affirme Mark Rutte. Le secrétaire général de l'OTAN se dit certain que les 32 alliés vont s'engager formellement à atteindre ce niveau. Surtout, les pays les moins portés sur la dépense militaire, comme l'Espagne, ont assuré qu'ils ne feraient pas objection. Il y a un quasi-consensus, affirme le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth. Une phrase faite pour plaire aux alliés européens. Ils espèrent maintenant de lui qu'il convainque Donald Trump d'avoir remporté une victoire personnelle. Ceci afin que le sommet de La Haye se passe comme sur des roulettes aux yeux du président américain, ce qui permettrait aux Européens d'obtenir de sa part en contrepartie un peu plus de soutien pour l'Ukraine. Mais il ne reste que 3 semaines d'ici le sommet de La Haye. Il va falloir racler les fonds de tiroir. Certains, comme les Polonais et les Baltes, sont proches de l'objectif de 5%. Mais pour d'autres, l'effort sera considérable. Par exemple, les Belges, à 1,29% actuellement. Ils plaident pour intégrer à leur effort de défense le soutien à l'Ukraine. Et par ailleurs, des dépenses à usage civil, mais qui contribuent à l'effort de défense, pourraient être comptabilisées. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et la guerre d'agression contre l'Ukraine et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ont rappelé l'urgence, à commencer par les pays européens, de renforcer leur défense. L'Ukraine, qui vit toujours sous le feu russe, Kiev a été la cible de frappes de drones et de missiles balistiques la nuit dernière. Dernier bilan, au moins 4 morts et 20 blessés. Autre théâtre de guerre sans fin, la bande de Gaza, où au moins 37 civils ont été tués hier dans des frappes israéliennes. La Fondation humanitaire de Gaza annonce, elle, avoir repris hier la distribution de nourriture dans l'enclave palestinienne. Organisation privée soutenue par les États-Unis et Israël, elle est la seule autorisée à opérer à Gaza. Mais son inexpérience et inefficacité ont été dévoilées ces derniers jours. En l'espace d'une semaine, plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués en allant chercher des colis alimentaires. Les ONG refusent catégoriquement de collaborer avec la Fondation, qui ne respecte pas les principes de base du droit humanitaire international. Neutralité, indépendance et impartialité. Des ONG qui s'insurgent aussi contre les incompétences sur le terrain et parmi elles Oxfam. Béatrice Vaugrant est la directrice générale d'Oxfam Québec.
Donc on voit bien que cette fondation-là manque totalement d'expérience et d'expertise pour distribuer l'aide. Déjà, c'est distribué dans 4 centres, ce qui oblige la population à se déplacer. Et d'ailleurs, c'est là où la question politique intervient. C'est comme, est-ce que c'est un but pour déplacer la population ou c'est un but pour aider la population? Donc, il est bien évident qu'on oblige la population à se déplacer alors qu'on continue à la bombarder. Ensuite, on a bien sûr une insécurité totale. Les camions qui rentrent sont évidemment assaillis par la population. Donc, les personnes les plus faibles n'ont pas accès et c'est elles qui ont en plus le plus besoin d'aide humanitaire. Donc, ce n'est pas elles qui se déplacent, ce n'est pas les familles, les enfants qui se déplacent, ce sont évidemment les personnes physiquement aptes qui peuvent avoir accès éventuellement à ce peu d'aide humanitaire. Et là, on voit même donc l'armée israélienne viser et tirer sur la population civile pour des raisons obscures. C'est hallucinant. continents qu'on doive mourir pour pouvoir se nourrir. Et enfin, les montants sont complètement inadéquats. C'est infime, cette aide-là, par rapport à l'ensemble des besoins pour la population à Gaza. Donc, une personne sur cinq est en train de mourir de faim en ce moment, fait face vraiment à la famine, et le reste de la population est en insécurité alimentaire extrême.
Béatrice Vaugrand d'Oxfam Québec, interrogée par Alexandra Siergan. Et sur un plan plus politique, le Hamas se dit prêt à de nouvelles discussions sérieuses concernant un accord de trêve dans la bande de Gaza. Le président Lula da Silva est depuis hier en France, la première visite d'un président brésilien depuis 2012. Malgré l'amitié qu'il entretient avec Emmanuel Macron, les sujets de divergence ne manquent pas, comme le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, auquel Paris s'oppose fermement et que Lula aimerait voir signer, mais également la guerre en Ukraine, le Brésil qui reste proche de la Russie. Paris compte bien expliquer aux leaders brésiliens l'état du dossier, avec une partie agressée qui est prête à la paix, une autre partie, l'agresseur, qui refuse toute proposition de paix ou de dialogue, dit-on à Paris. Lula, qui sera l'un des invités au sommet mondial sur les océans qui s'ouvre lundi prochain à Nice, dans le sud de la France. Plus de 100 pays sont attendus pour cette conférence mondiale des Nations Unies. Le Brésil, avec ses 8000 km de côte, est un incontournable de la protection des océans. Un peu à la traîne sur le sujet, il semble vouloir rattraper son retard alors qu'il va accueillir la COP30 au mois de novembre. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
Enfin, après 12 ans bloqués dans les tiroirs de la Chambre des députés, la loi dite de la mer a été votée ce mercredi. Le Sénat doit encore l'approuver, mais c'est une avancée majeure pour le pays. Le territoire marin brésilien fait en effet face à de nombreuses menaces. La surpêche, le changement climatique et surtout le plastique, c'est le 8e pays qui en rejette le plus dans l'océan. Évidemment, des initiatives existaient déjà. 26% des eaux maritimes brésiliennes sont ainsi protégées à plus ou moins grande échelle. Mais jusqu'à présent, rien n'était clair et beaucoup profitaient du flou pour exploiter à outrance les ressources de l'océan. Avec ce texte, le pays peut espérer mieux protéger la biodiversité, avec notamment une réelle régulation des activités économiques de la mer. Un grand pas donc, et une bonne nouvelle dans un contexte difficile, car même si le pays s'apprête à accueillir la COP30, nombre de parlementaires tentent en ce moment de détricoter une bonne part de la législation environnementale. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
Plusieurs couvre-feux instaurés au Mali suite à des attaques djihadistes ces derniers jours. Lundi dernier, un camp militaire à Tombouctou avait été pris pour cible. Hier, de nouvelles attaques ont visé un poste de l'armée à Mahou, c'est au sud-est du pays, faisant au moins 5 morts et 10 blessés. Au Burundi avaient lieu hier des élections législatives et communales, un scrutin important dans un pays où l'opposition dénonce la confiscation du pouvoir par le parti majoritaire et où la déstabilisation de la RDC voisine soulève également les inquiétudes. Le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré des irrégularités. La correspondance à Bujumbura d'Alain Désiré Boukeyeneza.
À travers les 5 provinces du Burundi, 6 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes. Les élections de ce jeudi ont été marquées par un climat sécuritaire à travers tout le pays, le Burundi étant habitué à organiser une synergie des médias au cours de la journée électorale. Quelques irrégularités soulevées au cours de la journée sont essentiellement liées au manque de postes de radio qui devraient servir d'informer en temps réel les agents électoraux et aussi des cas isolés de bureaux de vote qui refusent l'accès aux observateurs. Mais là, le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a indiqué que les auteurs de ce dernier cas sont personnellement responsables pour un tel comportement manifesté et d'ajouter que la commission électorale compte renforcer la communication afin d'améliorer tout ce qui se rapporte aux opérations de vote. Les élections présidentielles auront lieu en 2027. Bujumbura, Alain Désiré Boukeyeneza, Radio Vatican.
Le Burundi, où l'Église catholique joue un rôle pacificateur et de médiation de premier plan, plus d'un millier d'observateurs formés par l'Église ont été déployés pour ces élections. Et puis une nouvelle attention de Léon XIV envers l'Église de France, quelques jours après avoir envoyé un message invitant à un renouveau missionnaire à l'occasion du centenaire de la canonisation du curé d'Ars, de Saint-Jean-Eudes et de Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est aux prêtres d'Île-de-France que le pape s'adresse dans une lettre à l'occasion du jubilé de la province ecclésiastique de Paris. Je suis heureux de pouvoir vous manifester ma paternelle affection et de vous transmettre mes meilleurs encouragements pour la poursuite de votre ministère au service du peuple de Dieu qui vous est confié, leur assure le pape dans cette lettre. Tous les détails sont bien sûr à retrouver sur vaticannews.va. Notre monde peine à trouver une valeur à la vie humaine, même en sa dernière heure. C'est ce que déclarait le pape mercredi aux pèlerins francophones venus assister à l'audience générale. Alors qu'un projet de loi sur une aide à mourir a été voté en première lecture en France, Léon XIV espère que l'Esprit du Seigneur éclaire nos intelligences pour que nous sachions défendre la dignité intrinsèque de toute personne humaine. Une prière qui fut celle ces dernières années de Monseigneur Vincenzo Paglia, choisi par le pape François en 2016 pour présider l'Académie pontificale pour la vie, ainsi que l'Institut pontifical Jean-Paul II, dans le prolongement de son mandat à la tête du Conseil pontifical pour la famille. À 80 ans, l'évêque italien vient de quitter cette double fonction. Nous revenons avec lui dans notre dossier ce matin sur le mandat que lui avait confié François et sur la vision du pape argentin sur la famille.
Je me rappelle encore l'exhortation du pape François pour regarder la réalité des familles. Il me disait, ce n'est pas question avant tout de réorganiser le principe. Nous devons absolument prendre sur nos épaules, sur les épaules de l'Église, toutes les familles, comme ils vivent. Et nous devons les aider pour arriver à l'idéal familial. Ça a été le sens d'Amoris Laetitia. L'Église s'est mise à l'écoute et comme une mère miséricordiée, elle a senti comme primauté celle d'aider les familles à bien être ou à se soulever ou à entreprendre un chemin. C'est dans ce sens alors qu'on doit comprendre le regard pastoral du pape François.
En tant que président de l'Académie pontificale pour la vie, quel regard vous avez porté sur les différentes législations qui ont été prises par rapport à l'euthanasie, au suicide assisté dans des sociétés, en particulier occidentales, sécularisées?
Nous continuons à dire que l'euthanasie n'est pas une chose qu'on peut admettre, mais ce n'est pas une question des catholiques. C'est une question du respect de la vie, dans tous les âges, dans toutes les conditions, et toujours. Et en plus, comme chrétienne, nous devons souligner aussi que la mort n'est pas la fin. Et ça, on ne le dit pas. Et à mon avis, c'est un péché d'omission très grave. C'est alors l'annonce d'une vie pleine et éternelle. C'est ça que nous voulons défendre et faire vivre surtout. Et alors, pourquoi il y a dans beaucoup de pays un assainement pour donner la mort à quelqu'un et on oublie l'abandon thérapeutique des milliers de personnes âgées qui n'ont aucune aide. C'est pour ça alors que nous avons poussé beaucoup la question des soins palliatifs. La solitude est terrible, la souffrance est terrible dans ce sens. Et quand quelqu'un dit « la vie c'est à moi », oui, c'est vrai que c'est à toi, mais pas seulement à toi, c'est aussi des autres. En commençant par tes parents et en commençant par moi-même qui suis ton ami. L'individualisme est une poisson qui alimente cette cruauté de l'abandon.
Vous prenez une défense de la vie plus large, en prenant en considération évidemment les risques qui pèsent sur elle, les guerres, le réchauffement climatique, le nucléaire. Il y a d'autres facteurs aussi que vous mettez en avant, tels que la robotique ou l'intelligence artificielle. Comment vous avez cherché à vous positionner sur ces nouveaux sujets ?
Pour la première fois dans l'histoire, l'homme et la femme peuvent détruire même la création avec le nucléaire, avec le désastre climatique, avec les nouveaux sciences convergentes. Nous pouvons détruire tout le monde. C'est dans ce sens que nous devons redécouvrir l'humain commun que devons défendre. Il est nécessaire une alliance large entre les sciences, la philosophie, la théologie, les arts, l'économie, la politique. C'est pour ça qu'avec l'Académie pontificale pour la vie, nous avons promis une charte éthique de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé du algorithme contre la dictature des algorithmes. C'est ça la nouvelle frontière de l'éthique et de la morale. Le problème qui reste, à mon avis, c'est la responsabilité de la politique. Nous sommes aujourd'hui dans les mains de qui ont le pouvoir sur les data. Et malheureusement, il n'y a aucune règle.
Voilà, interrogé par Marie Duhamel, Monseigneur Vincenzo Paglia, l'ancien président de l'Académie pontificale pour la vie et de l'Institut Jean-Paul II, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h pour une nouvelle édition. N'oubliez pas d'ici là nos informations sur vaticannews.va. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.